Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Highway.
Highway Star à l'instant, et c'est une grosse pièce évidemment, c'est un monument, dirais-je même, sur lequel on va se pencher ici pour la troisième partie de Soundtrack, puisqu'on va se replonger donc ici dans l'album Made in Japan, cet album qui a été un véritable carton, qui a dépassé les frontières japonaises, donc pour Deep Purple, et c'est une séquence ici qu'on partage avec Laurent Riepy. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent, oui, un album légendaire, qui est considéré souvent quand on voit des classements dans des magazines de référence comme un des meilleurs disques live de toute l'histoire, donc capté en août 1972 au Japon, et il vient de ressortir dans une nouvelle réédition avec notamment, ce qui est intéressant ici, un remix signé par Steven Wilson. Alors Steven Wilson, en quelques mots, c'est un musicien lui-même qui travaille beaucoup sur le remixage d'albums anciens, notamment tout ce qui est progressif aussi, il travaille beaucoup là-dedans. Il fait un très très beau travail, et ici c'est particulièrement appréciable quand on parle d'un album live, puisque même si le travail d'origine avait été magnifiquement fait avec les moyens de l'époque, eh bien ici on a une petite update qui est appréciable et qui nous permet de mieux distinguer chaque instrument.
Et c'est vrai que la technologie d'aujourd'hui permet justement de pouvoir récupérer de la qualité même sur des enregistrements où on était limité en matière de captation. Alors ce qui est fou, c'est qu'au départ cet album live devait sortir uniquement pour le marché japonais.
Alors exactement, Warner Japon voulait sortir un album uniquement pour ce public qui à l'époque vouait déjà un culte, un véritable culte à Deep Purple, et c'est vrai, dès leur arrivée, Deep Purple est accueilli comme des demi-dieux. C'est presque les mêmes images qu'on avait avec les Beatles 10 ans auparavant, c'était incroyable.
Et c'est à l'instar de Cheap Trick aussi, je pense.
Oui, tous ces groupes-là, les groupes britanniques, américains, étaient accueillis vraiment d'une façon incroyable, fleurs, cadeaux, banderoles, Queen aussi, étaient accueillis comme ça à l'époque, et 3 concerts qui sont complets, complètement booké juste avant qu'il ne pose même un pied dans le pays. Donc le public est très très impatient de les recevoir.
Ouais, et alors sur scène, cette rencontre culturelle donnait parfois lieu à des situations surprenantes, comme vous l'avez confié Ian Gillan d'ailleurs. C'était lors d'une interview qu'il avait accordée ici même dans les studios de Classique 21 à Mons il y a une quinzaine d'années maintenant, et il avait passé toute une journée avec nous, mais c'était avec vous, parce que moi à ce moment-là j'étais pas encore là. C'était vraiment exceptionnel.
Très très chouette moment, et on va l'écouter justement parler de cette culture japonaise qui va un peu le surprendre au début.
In those days, it was an incredible adventure to travel to the other side of the world and to come full on.
À cette époque, c'était une formidable aventure de voyager à l'autre bout du monde et d'entrer en contact avec une culture qui nous était aussi étrangère. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Japon était encore un pays très isolé. Et soudainement, ils sont devenus dingues, dingues de cette musique. C'était fou. Ils avaient des TGV déjà à ce moment-là, des bullet trains. Ils étaient très en avance sur nous. Je me souviens que quand le train arrive en gare, sur votre ticket, il est indiqué « Attendez ici » à un endroit très précis, indiqué par un numéro. Et quand le train arrivait, il arrivait exactement à l'endroit indiqué et vous entrez directement dans le bon wagon. C'était géré par des ordinateurs déjà. Et il n'y avait plus qu'à s'asseoir dans le train. Tout était si bien organisé. C'était absolument brillant.
And you would go in and there was your seat on the train and everything was organized. It was brilliant.
Mais la surprise, évidemment, donc pour outre cette technologie complètement à l'avance sur le temps, c'est la réaction du public. Ian Gillan m'avait raconté à l'époque que c'était bizarre de se retrouver devant ce mélange de silence très contenu comme ça et d'explosion d'applaudissements qui déroutait complètement le groupe sur scène. Il n'avait jamais connu ça auparavant nulle part dans le monde. Ouais. Quelque chose donc on retrouvait que là-bas au Japon, et il nous en parle.
And lots of fans, screaming fans, chasing around, but they didn't know how to behave.
Il y avait beaucoup de fans, des fans qui hurlaient, mais ils ne savaient pas comment réagir. Ils ne connaissaient pas l'éthique d'un concert de rock, pour peu que ça existe. Et donc on se lançait dans notre premier morceau, on y allait à fond, on était à notre top, et puis silence total, pendant 2 ou 3 secondes, et puis, boum, le public devenait complètement dingue. Il n'y avait pas de cadence, pas de progression, c'était juste de l'enthousiasme immédiat, à 100%. Et puis, comme si vous éteigniez la machine, ça se stoppait net. Les applaudissements ne diminuaient pas normalement et progressivement, mais d'un coup. Et c'était parce qu'ils étaient effrayés de faire quelque chose par eux-mêmes. C'était un phénomène de masse étonnant.
And that's because they were frightened of doing anything on their own. It was, it was a very much a mass thing.
C'est assez, assez cocasse, évidemment, comme situation, on s'imagine bien là-dedans. Alors, malgré ce choc culturel et cet environnement inhabituel, le résultat, évidemment, reste incroyable. Hein. Et voilà, et dire que cet album a été enregistré en seulement 4 nuits, sur un petit 8 pistes, et qui, c'était pour l'équivalent de, on va dire, $3,000.
Oui, c'est rien du tout. En fait, le groupe savait, à l'époque, qu'il y avait des bandes qui tournaient, mais il n'imaginait pas une seule seconde que cet album deviendrait un album officiel mondial.
Ouais.
Ils pensent que c'est une petite sortie en fait qui était réservée au Japon. Et en fait, c'est justement grâce à cette absence de pression, parce que en fait, ils se disent bon, ça
ils sont décontractés quoi.
Ouais, oui, voilà, ils jouent comme ils jouent tous les jours, j'ai envie de dire.
Ouais. Enfin,
et donc, ça explique en partie la spontanéité extraordinaire qu'on entend tout au long du Made in Japan. Et si on leur avait dit, voilà, on va sortir un album très important, ben voilà, la prestation aurait été très différente. Et un bon exemple de tout ça, c'est ce fameux Lazy. Hein. Laurent, c'est vrai que ben, les réponses entre Richie Blackmore et le claviériste John Lord sont juste magnifiques.
Ouais, c'est du bonheur. Lazy. Et donc, bah, c'est joute, hein, comme on en parlait, entre le guitariste Richie Blackmore et le claviériste Feu, hein, Ian Lord, donc ici. Extrait de ce Made in Japan. Alors, ce qui est sûr, Laurent, c'est que Made in Japan a véritablement changé la donne.
Bah oui, un des biographes de Deep Purple, d'ailleurs, raconte dans un de ses ouvrages très, très complet que ce live a quasiment lancé la mode du double album live. Donc ça, c'est vrai qu'avant, bon, les double albums, c'était studio, double album live, ça se faisait pas trop.
Ouais.
Et c'est pas tout à fait faux parce que, après, il faut quand même préciser que tout le monde, un petit peu, a voulu sortir son live expansif. On pense notamment à Peter Frampton avec son Phantom Sons Live.
Ouais.
Kiss a fait de la même chose. Donc c'est devenu un modèle du genre.
Ouais. Et alors, il y avait aussi ces petits détails de scène, hein, qui faisaient toute la différence. Dave Thompson raconte, par exemple, que Richie Blackmore avait l'habitude de casser volontairement une corde en plein solo et de continuer à jouer comme si de rien n'était. Et le public, lui, bah, évidemment, croyait assister à un moment qui était totalement improvisé.
Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie un peu du mystère Deep Purple. Voilà, il fait des éléments, il fait semblant, finalement, d'avoir un problème. Et c'est vrai que ça va affoler le public. Et ça marche, hein, ce genre de technique fonctionne très, très bien.
Ouais.
Et c'est exactement, finalement, ça. Ce mélange de virtuosité et d'imprévu qui rend Made in Japan si magique. Et bah, pour conclure, peut-être, Laurent, dernier moment de grâce.
Ah, oh, ben oui.
Celui-là.
On peut pas faire autrement.
C'est impossible.
Ah, non. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain. Child in Time pour refermer notre séquence. Merci Laurent et à dimanche prochain.
À dimanche prochain.
Classique 21, Soundtrack.
Not been hit by not blind. You'd better close your eyes. You'd better bow your head. Wait for the ricochet. I'm crying for you, dear.
between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying death. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the
voilà, il était forcément impossible de ne pas vous proposer ce titre, hein, Child in Time, avec les performances vocales incroyables de Ian Gillan aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que bon, il peut plus le faire, mais c'est un peu normal avec les années qui passent, et même il y a beaucoup de chanteurs qui aujourd'hui, pour pouvoir refaire certaines chansons, doivent les jouer un demi-ton, voire même un ton plus bas. Je pense notamment à U2 qui fait assez ça régulièrement. En tout cas, cet album Made in Japan, bah, c'est un élément à avoir absolument dans toutes les discothèques.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.